France Musique.
Bonjour. Quel est le point commun entre Rossini, Jacques Brel,
nous valsons enfin tous les trois, mon troisième temps.
Henrik Mikolaj Goreschki. Stromae.
Alors on dort. Alors on dort.
Et Osvaldo Golijov. C'est le silence.
Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre.
Contrainte
temps,
de la célébrité, lassitude du métier, burn-out. Tous ces compositeurs ont été confrontés au silence. Bienvenue dans le troisième épisode de Silencio.
Une valse à 100 ans, à chaque carrefour, n'en parlait que l'amour a fraîchi ton printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu m'aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, presque nos amants, 300 pour le temps de bâtir un roman. La 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 la.
La scène se passe dans un avion. Cela fait près de 4 ans que Jacques Brel vit sur l'archipel des Marquises. Il n'accorde plus d'entretien. Et pourtant, pour l'équipe de l'émission Visa pour le monde de la RTBF, il accepte d'être filmé. À côté de lui, dans la cabine de pilotage, il y a sa dernière compagne, Madly. Le chanteur est atteint d'un grave cancer du poumon. Les journalistes sont conscients du scoop. Il le filme depuis l'arrière de l'avion. Brel leur montre son île. C'est la toute première fois qu'on filme ce côté de l'archipel. Bien sûr, pas question de l'interviewer et encore moins de parler de chansons. A priori, Brel finit paisiblement sa vie aux îles Marquises. Il a arrêté la chanson lors d'un dernier concert à l'Olympia en 1966. Mais rien à voir avec son rythme de tournée d'autrefois. Si on prend par exemple l'année 1964... Il a donné plus de 250 concerts. Rapidement, la routine a cependant pris le dessus. L'impression de faire un métier. Il poursuit ses tournées jusqu'au jour où, lors d'un concert, il répète deux fois le même couplet sans s'en apercevoir. Et là, stop, il arrête tout. Voici ce que Jacques Brel déclarait en octobre 1966 sur les raisons de son arrêt.
Et c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. Mais là, j'ai envie de respirer un peu. C'est pour avoir le temps d'aimer, justement. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien le temps d'aimer. J'ai envie d'aller voir, de regarder, m'offrir le temps de me taire.
Le temps de se taire, mais aussi de faire de nouvelles choses. En 1969, Brel croit qu'il peut encore tout réussir, tout accomplir.
Ça s'appelle la liberté.
Lui qui n'aime que le provisoire, vit au gré de ses envies. D'abord, c'est le cinéma en tant qu'acteur puis réalisateur. Son objectif est simple. Il se donne 10 ans pour devenir un metteur en scène acceptable. Mais en réalité, Brel supporte mal l'échec critique de son film, Le Far West. Et après 3 jours prostrés dans un hôtel à Deauville, il annonce qu'il abandonne le 7e art. Nouvelle lubie, nouvelles envies. L'auteur d'Amsterdam réfléchit à un tour du monde en bateau. Il devient marin. Il s'achète un yacht noir de 18 mètres qu'il appelle Askoy, mais bientôt c'est l'idée même de bateau qui le lasse. Alors il s'en débarrasse. Finalement, Brel débarque aux Marquises en novembre 75 sans trop savoir quoi faire.
L'inaccessible étoile, telle est ma quête.
On pourrait croire que Brel termine sa vie tranquillement. Mais non, il songe à un dernier album, comme un défi à la mort. Pas pour son public, non, au contraire. Il prendra soin de se tenir éloigné des projecteurs. Il passe une semaine d'enregistrement à Paris en 1977, où il enregistre un album de 16 chansons intitulé Les Marquises, puis il repart dans son île, une tumeur de la taille d'un pamplemousse dans le torse.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Entre toutes les excuses fabriquées par les compositeurs pour justifier l'abandon de la musique, celle de Gioachino Rossini est certainement l'une des plus originales. Deux ans avant sa mort en 1866, le compositeur italien explique à un ami pourquoi il a arrêté de composer des décennies plus tôt. Il dit « L'ennuyeux, c'est de se répéter, il y a de quoi se siffler soi-même ». Rossini s'arrête de composer à 37 ans, à l'âge où Mozart et Van Gogh meurent. Entre 1810 et 1829, le musicien italien compose près de 40 opéras. Il est une star en Europe, mais étrangement, il ne profite pas de son succès. Rapidement, il souhaite s'éloigner de la scène, comme s'il n'appréciait pas de soulever l'enthousiasme du public. Il faut dire que le compositeur écrit trop. Comme il n'y a pas de captation YouTube, ni d'enregistrement à l'époque, il réutilise sans vergogne des scènes d'ouvrages précédents. Il est devenu sa petite entreprise, et quand l'inspiration vient à manquer, il utilise des trucs, ces fameux crescendo-décrescendo que d'aucuns se plaisent déjà à comparer à du champagne. Rossini s'arrête de composer, c'est parce que l'époque a changé. L'heure n'est plus aux opéras bouffe, mais aux tragiques et à la mythologie. 15 ans de dépression à Bologne, puis le retour en France, où il devient l'une des meilleures tables du tout Paris, lui qui est, rappelons-le, fils de boucher. On lui prête la recette d'un fameux tourne-dos. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais la sauce Rossini est préparée avec du foie gras, les sucs de cuisson et des truffes râpées. On prétend maintenant aussi qu'il a composé l'air dit « Tanti palpiti » de Tancred en faisant cuire une casserole de riz. Le tout Paris adore ses anecdotes croustillantes et sa langue bien pendue. Rossini compose toujours, certes, mais des miniatures pour salon qu'il rassemble sous le titre infamant de « Péché de vieillesse ». Il y a quelque chose de douloureux ou de péjoratif dans son rapport à la musique. Par exemple, dans le début de cette courte pièce, vous entendez une musique souple, agréable. Connaissez-vous son titre ? Eh bien, il s'agit de la gymnastique d'écartement. Encore un petit exemple. Connaissez-vous le titre de cette pièce ? Je vous mets sur la voie. Il s'agit d'un aliment, d'un légume. Eh bien oui, vous écoutez les radis de Rossini. Mais il y en a d'autres. Anchois, cornichons, un prélude hygiénique du matin, comme une liste de plats maigres. En réalité, ça ressemble un peu à Jacques Brel ou à Serge Gainsbourg plus tard, quand ils affirment que la chanson est un art très limité. Rossini a un autre point commun avec Brel, car il revient à la toute fin de sa vie pour une dernière œuvre, une sorte de baroud d'honneur, comme s'il voulait affronter la mort. Une petite messe solennelle, qui n'a de petite que le nom, et qui vise à conjurer une mort qu'il sait prochaine. La musique n'a jamais été une affaire légère, ni pour Brel, ni pour Rossini. Nous écoutons ici le Kyrie introductif de la petite messe solennelle de Rossini, par le chœur et orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Papano. Vous écoutez Silencio sur France Musique. Parmi les compositeurs qui s'arrêtent et reviennent à la toute fin de leur vie, Olivier Greff, ancien assistant de Luciano Berio, le compositeur français fait silence au début des années 1980 pour devenir représentant des idées d'un gourou indien. Il vend des coussins dans une boutique de méditation. Il change même de prénom. Puis il sort de sa retraite spirituelle au milieu des années 90 pour composer en quelques années un corpus gigantesque d'œuvres tourmentées, des requiems, des sonates de guerre, des chants de l'âme, en prémonition, peut-être, de sa mort inattendue en 2000. Mais revenons sur le succès, ou plutôt la rançon du succès.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
Le chanteur belge Stromae connaît le triomphe au début des années 2010 avec des chansons comme « Alors on danse »,« Papa outé » ou « Formidable », avant de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un « burn-out ». Voici ce que déclarait Stromae dans l'émission belge de la RTBF Heptaxi à Jérôme Collin.
Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu horrible, mais je me sens un peu comme dans le film avec Jim Carrey, là.
Ah ouais. Truman Show.
Truman Show.
Épié en permanence.
Voilà. Parce que des fois, je m'en veux d'être parano comme si c'était de ma faute, mais en fait, il y a... Enfin, c'est-à-dire que moi, je marche dans la rue et j'entends des... C'est Stromae. Enfin, c'est-à-dire que... C'est un peu comme si j'étais vraiment épié 24 sur 24, quoi. Et c'est assez pesant, quand même, parfois.
Trop de sollicitations, trop de demandes qui vous éloignent de vous-même, la chanteuse de rap Diams connaîtra la même mésaventure. Un succès fulgurant, au début des années 2000, avant d'abandonner la musique et de se convertir à un islam traditionnaliste venu d'Arabie Saoudite. Parfois, le succès vous arrive de façon inattendue, et vous inhibe car vous avez peur de décevoir. On peut penser au chanteur Michel Polnareff, qui a mis 30 ans pour sortir un nouvel album l'an passé, qui a reçu un accueil discret. Mais en musique classique, le cas le plus célèbre, c'est celui-ci. C'est l'un des mythes de l'histoire du disque. En 1977, un obscur compositeur polonais crée une symphonie au festival de Royan. Son nom, Henryk Mikołaj Goreszki. Après la première, rien ne se passe, l'œuvre est oubliée. Lorsqu'en 1992, paraît un disque avec une ombre en couverture, à la manière d'une icône orthodoxe. C'est la symphonie numéro 3, dite des chants plaintifs. Il est vrai, l'interprétation de la soprano Dawn Upshaw et du London Sinfonietta dirigé par David Zidman est remarquable. Précise, ample, translucide. Dès sa première diffusion, la symphonie numéro 3 retient l'attention des auditeurs de la radio britannique Classic FM. On appelle en masse la station pour connaître le nom de cette musique. Bientôt, les radios rock et pop s'en mêlent. En quelques mois, la symphonie de Goreszki devient un phénomène de société. Il s'en vendra parfois jusqu'à 10 000 exemplaires par semaine et fait unique dans la musique contemporaine. L'œuvre atteindra même la sixième place au hit-parade britannique. Mais un peu comme Ravel avec le boléro, Goreszki obtient une reconnaissance avec une œuvre qui en réalité ne lui ressemble pas. Sa notoriété se base sur un malentendu. Pour le compositeur polonais, le succès était-il trop lourd à porter? Cette symphonie était-elle trop douce, lui qui avait une grande violence en lui? Goreszki ne fera paraître quasiment aucune partition jusqu'à sa mort, en 2010, comme si ce disque triomphal l'avait inhibé. Longtemps espéré, sa symphonie numéro 4 sera achevée par son fils pour les Proms de Londres en 2014. Et de fait, la pièce ne ressemble en rien à ce à quoi le public s'attendait. Pas de douceur, pas pas de consolation comme dans la précédente symphonie. On y entend des explosions quasi punk, avec des dissonances et des rites obstinés.
Thank you.
Un extrait de la symphonie numéro 4, épisode Tanzmann de Goreschki, par le London Philharmonic Orchestra, dirigé par Andrei Boreiko. Vous écoutez Silencio sur France Musique. Pour terminer cette émission, je voudrais vous faire le récit de deux des plus grands scandales de la musique du XXIe siècle. Le premier se passe au Japon et rappelle l'adage « bien mal acquis ne profite jamais ». Nous sommes au milieu des années 1990 et un compositeur japonais, Mamoru Samuragochi, se fait un nom dans le milieu musical. Les amateurs de jeux vidéo reconnaîtront certainement cette bande sonore. Il s'agit de la musique de la série des Resident Evil. Au début des années 2000, Samuragochi écrit pour le concert. Il crée une symphonie numéro 1 dite Hiroshima, lui dont les parents faisaient partie des Hipagusha, c'est-à-dire des survivants du bombardement atomique. Sa personnalité séduit. Il raconte qu'il est sourd de l'oreille gauche et n'entend presque plus de la droite. Et il a du style, Mamoru. Grande lunette fumée, longue chevelure ondulée, rehaussée d'une longue canne blanche très disco. Il n'en fallait pas plus pour que le grand public le surnomme le Beethoven japonais. La carrière de Samuragochi explose encore 5 ans plus tard, après la diffusion d'un documentaire de la NHK. Succès d'audimat garanti. On voit le compositeur japonais échanger avec des habitants de Fukushima et donner des bouts de partitions aux enfants. Sa symphonie Hiroshima est devenue la musique de Fukushima, lueur d'espoir contre les catastrophes humaines. C'est l'emballement médiatique. On réclame Samuragochi partout. Il multiplie les interviews sans que ce surplus d'activité n'entame ni la verve ni l'inspiration du Beethoven japonais. Étrangement, d'innombrables œuvres paraissent à un rythme effréné. Nous écoutons à présent un extrait de la symphonie numéro 1 de Mamoru Samuragochi par l'Orchestre symphonique de Tokyo dirigé par Naoto Otomo. Théâtre en 2014. Un obscur professeur convoque une conférence de presse. Silhouette frêle, regard myope, il se nomme Takashi Niigaaki. Et il affirme l'impensable. La symphonie de Samuragochi que nous venons d'écouter n'a pas été composée par Mamoru, mais par lui-même, par Takashi Niigaaki. Ce dernier raconte deux choses stupéfiantes. Non seulement Samuragochi n'a jamais eu de troubles auditifs, et pire encore, il n'a même jamais étudié la musique. C'est Niigaaki, et lui seul, qui compose les œuvres du Beethoven japonais depuis une quinzaine d'années. À l'origine, la relation entre les deux hommes n'était qu'un simple troc financier. Mais sans qu'on sache les raisons, la jalousie, la cupidité, ou alors tout simplement un trop grand succès, les termes de l'accord entre les deux hommes ont été brisés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Takashi Niigaaki, le musicien fantôme, a cru qu'en faisant ses aveux, sa carrière à lui aussi prendrait fin. C'est tout le contraire qui arrive. Lui, l'obscur professeur tokyoïde de banlieue, est brusquement invité sur les plateaux télé, d'abord en tant que doublure de Samuragochi, puis en tant que célébrité people à part entière. Niigaki apparaît dans les magazines, les publicités et les vernissages branchés. Et à l'heure où son ancien employeur ne donne plus de signes de vie, si ce n'est de vieilles promesses de vengeance, Niigaki affirme dans une interview « Je sais que cela va paraître étrange, mais c'est comme si j'avais pris le rôle de Monsieur Samuragochi. »
Come on.
Un extrait de la Passion según Ser Marcos d'Osvaldo Golijov, le héros du deuxième scandale que je vous ai promis. Car cela vaut du temps de Bach, de Mozart, de Beethoven, comme des musiciens d'aujourd'hui. Un compositeur, pour gagner sa vie, doit beaucoup écrire. Souvent, pour survivre, les compositeurs deviennent professeurs. Il y a eu un âge d'or dans les années 1980-1990 et certains n'ont pas survécu au marché déclinant du CD et de l'industrie de la culture. Certains compositeurs dressent d'ailleurs un constat très sombre du métier. Trop de désintérêt de l'État et des interprètes, la musique contemporaine vue comme une obligation contractuelle. Il existe une poignée d'élus dont Osvaldo Golijov faisait partie. Comme l'art n'est pas épargné par l'économie libérale, certains musiciens monopolisent les commandes importantes jusqu'à être dépassés, jusqu'à ne plus pouvoir répondre à temps. Ils sont victimes de leur succès en somme. Je voudrais tout d'abord vous mettre dans l'oreille cette charmante pièce de Michael Ward Bergman, intitulée Barbeich, par l'ensemble Betacolide, avec la trompette solo de Brian McWhorter. Nous sommes en 2009 et Osvaldo Golijov est l'un des compositeurs les plus célèbres de ce début du siècle. Le compositeur argentin a écrit la musique des derniers films de Francis Ford Coppola, comme Twixt ou Tetro. Il reçoit la commande exceptionnelle de la League of American Orchestra sous l'égide de la Henry Fogel Association qui réunit 36 orchestres américains. Golijov écrit une œuvre d'orchestre que le public apprécie beaucoup. Jusqu'à ce qu'un journaliste musical découvre que Sidereus, c'est le nom de la pièce, ressemble étrangement à un autre morceau. voici le début de Sidereus d'Osvaldo Golijov par l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par James Conlon. Comme vous pouvez l'entendre, Sidereus est une extension, ou plutôt un arrangement pour orchestre de Barbeich de Michael Ward Bergemann, et Golijov a été pris la main dans le sac. Il y a eu un grand débat outre-Atlantique. S'agissait-il d'un emprunt de la part de Golijov, d'un plagiat ? La question est d'autant plus compliquée que Golijov était un compositeur postmoderne travaillant avec des citations. On a répété le célèbre mot de Stravinsky : les bons compositeurs n'empruntent pas, ils volent. L'affaire se règle à l'amiable, car Ward Bergemann était en réalité un collaborateur de longue date de Golijov. Le compositeur argentin utilisait des collaborateurs pour l'aider, parfois, à répondre à ses trop nombreuses commandes. Depuis, Golijov a laissé passer un silence de 10 ans. La commande qui le liait au Metropolitan Opera de New York a été rompue, un peu à la manière de la symphonie numéro 8 de Sibelius, de notre première émission Silencio. Également, un concerto pour violon avec Leonidas Kavakos et l'orchestre de Los Angeles était prévu pour être joué en 2012. Le concerto a été annoncé à Berlin en 2013, puis en 2015, puis a été définitivement annulé. Mais coup de théâtre, Golijov vient de créer une nouvelle pièce en 2020, après 10 ans de silence. Comment faire pour échapper à la rumeur du monde, à ce que vous demande la société, ou tout simplement pour sortir de soi-même? Peut-être en goûtant au silence le plus absolu. Nous allons boucler l'émission avec un enregistrement du bioacousticien Gordon Hempton, qui enregistre les zones les plus silencieuses de la planète. Les forêts primitives d'Australie, les déserts d'Afrique australe et dans tous les endroits où l'homme est réputé n'avoir jamais pénétré. Hélas, des avions survolent en permanence notre globe, si bien que selon Gordon Hempton, le silence de la nature n'existe déjà plus. Nous voici dans la forêt amazonienne, avec les bruits de la nature, loin des hommes et loin de la rançon du succès. Un enregistrement de la forêt amazonienne, enregistré par Gordon Hempton. C'est ainsi que le troisième épisode de Silencio s'achève. Une émission préparée par Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Éric Villenfin, réalisation Claire Lagarde. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à l'ultime silence des compositeurs. Bon après-midi sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.